L'interview matinale, première partie, ce matin, je suis en déplacement à Couarac et je suis avec Angélique Nau, qui vigneronne donc à Couarac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que donc on se déplace, on fait avec Véronique les portraits de femmes vigneronnes. Vous êtes une femme et vous êtes vigneronne. Donc,
tout à fait.
on s'est dit, ben voilà. Et merci de nous accueillir. Déjà, la première chose, c'est de faire les présentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette propriété, c'est une propriété familiale.
Alors, c'est une propriété qu'a montée mon père. Tout
Ouais.
seul, voilà. C'est lui la première génération sur l'exploitation. Et puis petit à petit, j'ai pris la décision en 2014 de commencer à le rejoindre. La passation s'est faite doucement, gentiment. Et aujourd'hui, il a pris sa retraite depuis maintenant un an. Et puis je me retrouve, oui, toute seule sur l'exploitation.
Alors, c'était une volonté de sa part de transmettre cette exploitation, justement?
Alors, c'était difficile parce qu'il y a eu plusieurs crises au niveau du vin et sur les périodes de crise, comme beaucoup, il préférait que ses enfants aillent plus loin. Et puis, petit à petit, quand le vin allait un peu mieux dans les années 2000, 2010, il a accepté que je revienne. Et puis bon, aujourd'hui, il s'en veut un peu vu la situation que je sois revenue sur l'exploitation. Mais c'était quand même un souhait que j'avais, donc dans tous les cas, il n'avait pas trop le choix.
Oui, en fait, de toute façon, vous c'était décidé. Du coup, alors quand c'est décidé comme ça, oui, parce que dans les études, vous êtes dit bon bah ok, je vais commencer à préparer en douce, peut-être voilà, lycée agricole et tout, etc. Ou vous étiez quand même parti ailleurs pour donner le change.
Non, non, je suis partie ailleurs parce que quand il avait plus ou moins dans l'idée que personne revienne du fait qu'il y avait des difficultés, je suis partie sur un cursus général, j'ai passé un bac scientifique et j'étais dans l'idée de devenir sage-femme, donc direction la fac
Ça
de médecine.
n'a pas grand-chose à voir avec le vin, tout ça.
Rien du tout, mais quand finalement depuis petite, on a quand même l'envie de revenir ici, que nos parents nous disent non, on essaye de trouver
Un truc.
quelque chose. Quelque chose, et bon, comme j'avais quand même des capacités pour arriver à passer un bac, j'y suis allée, et puis voilà. Mais bon, c'est quand on est né dedans, qu'on y est depuis petit, qu'on voit nos parents y travailler régulièrement, et qu'on a ça dans l'idée. Qu'on veut revenir, on revient de toute façon. On peut prendre une voie différente. Au bout d'un moment, il y a tout qui nous rappelle à la terre de nos ancêtres et on y revient.
Et vos grands-parents, c'est ce qu'ils travaillaient dans le vin aussi, ou j'étais ailleurs
Alors, pas du tout. Mon grand-père était chauffeur routier.
Ah oui, donc il n'y a
Voilà, pas
pas.
du
Lui, à
tout.
la limite, il transportait le vin.
Non, même pas. Il
Même
transportait
pas.
de la terre. Et
De la
puis dans la
terre.
terre un peu aussi, mais. Et ma grand-mère, elle était, à l'époque, ça s'appelait bonne de chambre, voilà, mais elle travaillait chez des viticulteurs du coin, elle faisait des petits compléments à travailler dans les vignes. C'est elle qui avait cette maison et toute cette propriété dont elle a hérité. Et parce que bon, il y avait des arbres fruitiers, il y avait tout. Et petit à petit, mon père a mis en place la vigne, voilà. Donc il s'est installé avec la vigne, plus du mouton, parce qu'il faisait aussi du pauillac à l'époque.
D'accord, ok. Donc oui, puis finalement le mouton, il a au bout d'un moment.
Alors, le mouton, en fait, petit à petit, il y a eu un cahier des charges qui s'est formé qui était très très contraignant. Et du coup, il a pris la décision de ralentir sur le mouton, de sortir du pauillac. Il continue toujours à faire un peu de viande bovine. Et puis, moi, quand je me suis installée, j'avais un peu de difficulté avec l'élevage. Je préférais vraiment partir sur de l'Avignon.
Déjà, au moins partir sur la vigne, hors le rapport à l'animal qui est quand même toujours un peu. C'est pas toujours très doux des fois de se dire j'élève des animaux pour la viande. On peut partir en vacances aussi avec la vigne un peu plus parce que avoir des bêtes, c'est un engagement.
C'est sûr que l'élevage est quand même bien plus contraignant que la vigne. La vigne, on peut partir
Il y a au
le
moins 2 semaines dans
week-end, on
l'année
peut
où on peut se
partir,
dire
voilà.
allez.
Moi, en étant viticultrice, j'arrive à trouver au moins 2 semaines, voire 3 semaines dans l'année où je peux arriver à partir soit en vacances ou faire une pause avec mes enfants. L'élevage, c'est plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a énormément d'instances qui peuvent nous accompagner, comme les services remplacement. On a aussi des liens qui se sont formés, qui permettent... On a les anciennes générations qui prennent les relais quand les jeunes se permettent de prendre pour souffler un peu. On arrive un peu, mais c'est beaucoup plus contraignant quand même. Oui. L'élevage, parce que c'est quand même du lundi au dimanche. Il
faut... Et voilà, oui, c'est ça.
La vigne, on peut se permettre de se poser samedi, dimanche, à part vraiment un gros, gros coup de boulot, comme les périodes printemps où il y a tout à faire en même temps, parce qu'elle pousse, il faut tondre, il faut entretenir,
là,
il faut traiter, il faut tout faire. Là, je me vois des fois de avril à juillet à travailler le samedi et le dimanche pour vraiment être à jour dans mon travail.
Ça va être plus être des coups de bourre, des moments...
Oui, voilà. sur la vigne, ça va être vraiment des coups de bourre et des moments précis où vraiment on sait que... Là, moi, un pont au mois de mai, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Faire le pont au mois de mai, souvent, ils n'existent pas en viticulture. C'est vraiment le moment où il faut être partout. Et, voilà. Après, l'élevage, c'est différent. L'élevage, c'est vraiment du lundi au dimanche et c'est toute l'année.
C'est quoi les périodes où la vigne nous laisse un peu en paix, justement, dans l'année, s'il y en a ?
Alors, moi, je suis coopératrice. Donc en étant coopératrice, j'ai un petit temps de repos, on va dire, au moment après vendange.
Après vendange.
Voilà. Mais bon, ceux qui sont chez particuliers, c'est la période où ils sont sur la vinification,
oui, voilà.
Donc eux, ils n'ont pas de pause. Voilà. Moi, c'est vrai que j'arrive à trouver un temps calme là. Mais bon, souvent, c'est la période où je rattrape ce que j'ai pas pu faire pendant le coup de bourre, quoi.
Oui, parce que la vigne, c'est pas simplement cultiver son raisin, c'est aussi toute la partie logistique, administrative.
Ah oui, maintenant on est dans des métiers où l'administratif est très très important. Déjà, si on est dans des certifications, on est dans des aides et tout, où on demande toujours de justifier, toujours beaucoup plus, on a des dossiers énormes à monter et ça prend des temps très importants. Moi, souvent, ces temps-là, je les passe le soir. Une fois les enfants couchés, moi j'y passe des heures à faire tout ce qui est administratif et ça prend énormément de temps. Ouais.
C'est quoi le secret pour quand même le faire, en fait, du coup, trouver l'enthousiasme, ce qu'il fait, il faut aimer tout. Enfin, c'est des sacrées journées, en fait. C'est un gros engagement. Quoi le moteur?
Je sais pas, en fait, si tout le monde le voit comme ça. Moi, à titre perso, pour moi déjà c'est une passion. Mon métier n'est pas une corvée, c'est une passion. Voilà, j'y suis venue parce que j'aimais ça et j'aime, voilà. Après, c'est quelque chose qui arrive de mes ancêtres, si on peut dire ça, de mon père. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attachée et que j'ai envie de faire vivre malgré les difficultés qu'on rencontre. On s'accroche énormément pour essayer de passer tous ces caps difficiles. Donc après, oui, je pense qu'il faut vraiment aimer ce métier. Il faut l'aimer, il faut que ça en soit une passion. Faut pas, en fait, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Moi, aujourd'hui, mon exploitation, j'ai deux enfants, j'en ai trois, en fait. Notre exploitation, c'est mon troisième. Non, c'est vraiment, on décroche jamais. On l'a dans la tête tout le temps. Même en week-end, si on n'est pas à la vigne, un orage qui monte en soirée, on y pense tout le temps.
On regarde le radar météo sur le téléphone, on se dit « Ah, il va où le nuage ?»
Ça fait partie de nous, même en vacances. On a quand même les mails, à l'affût des mails, des papiers qui manquent, qu'il faut envoyer, on décroche quand même jamais. C'est quand même des métiers qui sont en nous et qui nous suivent tout le temps, quoi.
Alors justement, vous parliez des difficultés. Je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de l'interview, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie. On va parler des difficultés, mais aussi de tout ce qui fait du bien. L'idée, c'est quand même de rester... tout à l'heure, vous disiez que vous étiez optimiste. Moi, j'aime bien ça. Être optimiste, c'est pas être irréaliste. C'est juste essayer de continuer, d'avancer, d'être curieux de ce qui se passe et de voir quelles sont les solutions. Et je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie d'Angélique Nau, qui est viticultrice à Coirac. Donc, vous êtes... alors, on va refaire les présentations. C'est 34 hectares, donc, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. 34 hectares aujourd'hui. À la base, c'était une exploitation de votre père, en fait. 22 hectares, vous en avez apporté 12 en arrivant. Pourquoi en apporter d'ailleurs en arrivant? C'était quoi l'idée quand vous avez repris?
Mais parce que lors de l'installation, mon père n'était pas encore en âge de retraite, donc il fallait qu'il travaille encore quelques années. Et moi qui arrivais dessus, il fallait augmenter la surface de façon à pouvoir sortir une rémunération supplémentaire.
Je crois avoir lu dans les petits manuels de la vigne que je crois que c'est une personne pour 7 hectares pour gérer, il me semblait, dans... Ouais, c'est ça, c'est une personne pour 7 hectares. Là, il y en a 34 et vous êtes aujourd'hui toute seule, accompagnée de votre père. Enfin, toute seule.
Alors, c'est toujours compliqué parce que ce qui est marqué dans les manuels, des fois, il faut une généralité. Mais tout dépend le secteur, puisque moi, je suis sur l'entre-deux-mers. On a une grosse partie plantée en 3 mètres, 1 mètre, et on compte plutôt une personne pour 15 hectares.
D'accord, voilà. Ok.
Après, c'est sûr que selon les secteurs, un Saint-Émilion, un Sauternes, ils sont plantés plus étroits, ils ont plus de pieds à l'hectare, donc le nombre de personnes à l'hectare change.
Enfin, ça fait quand même une personne pour 15, et il y a 34.
34 hectares, on a un petit 4 hectares qui nous prend un peu plus de temps. Mais bon, après, quand on est agriculteur ou viticulteur, on ne compte pas ses heures, donc... On n'est pas du tout des personnes qui sont à 35 heures par semaine. On s'arrête quand on a fini. On ne s'arrête pas quand c'est l'heure d'arrêter.
Mais c'est pas oulala, il est 16h30 là, allez hop.
Non, c'est ça. C'est quand le boulot est fini, on s'arrête.
Et justement, alors, c'est une passion, c'est un métier passion. Pour vous, on s'arrête quand le job est fait. Mais ce qui est important aussi dans un métier passion, c'est aussi que ce métier nous permette de vivre. Et aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus médiatisé. D'ailleurs, on l'a vu, le mouvement des agriculteurs, notamment sur Bordeaux, etc., qui commence à dire « Ouh là là, c'est compliqué, là qu'est-ce qui se passe, en fait, exactement ?»
Ben, aujourd'hui, on vit plus de nos métiers, en fait. Aujourd'hui, un agriculteur va se sortir, s'il le peut, en moyenne, entre 600, 700, voire 800 euros par mois. Voilà, pour vivre... Voilà, après, aujourd'hui, on a tellement de charges, les charges ont augmenté, elles ont augmenté pour les Français en général, mais sur nos exploitations, on les sent encore plus, parce qu'on a le GNR qui a augmenté, l'électricité qui a augmenté, donc toutes ces charges-là, aujourd'hui, on nous parle de nous taxer encore plus nos produits phyto, qui malheureusement... on en a besoin, sans eux on n'a pas de récolte, on utilise des produits qui sont sains aux normes françaises, mais si on ne les a pas, on n'a rien, donc ils vont nous les taxer aussi. Donc on a des charges énormes qui font qu'aujourd'hui, à la fin du mois, on ne peut, pour ainsi dire, pas se sortir de salaire ou un salaire de misère, quoi. On ne vit pas de notre métier aujourd'hui. Et ça fait partie des revendications, des choses qui sont défendues aujourd'hui, par les agriculteurs à Bordeaux, les agriculteurs au niveau national. On demande simplement de vivre de notre métier.
Mais qu'est-ce qui fait que... Donc, il y a les charges, effectivement. Oui, on a vu qu'ils veulent que le GNR soit fiscalisé comme le diesel, en fait. Alors que déjà, le GNR, c'était une solution de remplacement, puisqu'avant, il me semble qu'avant qu'il y ait le GNR, il y avait le... Dans les vieux tracteurs et tout machin, on mettait... Enfin, c'était pas du diesel, c'était du...
Moi, j'ai pas connu, donc...
Enfin, il y avait avant, c'était... En fait, le GNR, c'est ni plus ni moins que du diesel adapté à la fiscalité.
Oui, c'est du carburant, mon
voilà.
Métier.
Voilà, et alors qu'avant, c'était même un diesel plus soufré et tout, enfin, qui était vraiment destiné à la consommation pour les machines agricoles et tout, etc.
Oui, c'est ça.
Comment vous voyez ça, en fait, un gouvernement qui... On a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés d'une réalité. Enfin, je comprends pas ce qu'ils font, en fait.
Aujourd'hui, c'est... Alors, je sais pas s'ils sont déconnectés vraiment ou s'ils réalisent pas la difficulté qu'on rencontre. Après, jusqu'à présent, les agriculteurs, on a tous souffert sur nos exploitations sans vraiment trop en parler. On tirait la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, mais sur des petits... sur des petits moments, c'est-à-dire une augmentation de quelque chose, on râlait un peu, mais dans tous les cas, on n'avait pas le choix, il fallait la subir. On avait autre chose, on râlait aussi un petit peu, mais voilà. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à force de subir, de subir, de subir, on n'en vit plus. On ne vit plus de nos métiers, on a un suicide régulièrement, on a tous dans nos entourages un collègue qui a passé malheureusement à l'arme à gauche parce qu'il n'en pouvait plus et il se voyait fini. Et en sachant que sans nos métiers, on a l'impression de plus vivre en fait, puisque c'est une passion, donc sans nos métiers, on n'existe plus. Donc quand on voit qu'on le perd,
Et puis ce sont quand même des métiers essentiels, parce que même le vin, on va dire oui, c'est de l'alcool, mais non, c'est d'abord du raisin. C'est de la plante, c'est de la nourriture, en fait. Sans agriculteur, il n'y a pas de manger. Sans manger, c'est compliqué de vivre sans manger.
Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on a besoin de manger. Souvent, c'est vrai que la viticulture, on nous dit le vin n'est pas essentiel. Certes, c'est une chose aussi, mais souvent, je dis aux gens, imaginez le pays ou ne serait-ce que votre région sans agriculture, viticulture, sans rien. Qu'est-ce que vous...
On pourrait mettre des immeubles partout qu'on louerait...
Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de végétation, on a besoin... souvent, on dit que les agriculteurs sont les jardiniers de la France, en fait. Mmh. On a besoin de verdure dans un pays, on a besoin... Et du coup, on en sort quelque chose, on produit, on fait de la production, le vin fait partie de la production. C'est pas un produit de première nécessité, mais c'est quand même quelque chose qui réconforte pour des gens. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui aiment bien boire leur petite bouteille de vin sur des moments, des journées dures ou quelque chose de compliqué. Ils aiment bien le soir leur petit verre de vin et... Donc non, on a besoin des agriculteurs en France.
Et puis c'est, faut rappeler quand même que la campagne, c'est pas la nature. Quoi. J'avais vu un artiste comme ça récemment qui disait « Ah, la nature, c'est beau ». Non, c'est pas la nature. La campagne, c'est la nature organisée par l'homme, entretenue par l'homme, en fait. Et c'est un nouvel écosystème où le but d'un agriculteur, c'est quand même d'avoir une terre qui continue aussi à être viable, riche. Donc sortir un peu de cette idée que j'essore le sol et puis après je me casse parce que ça c'est pas viable. Donc oui, j'aime bien l'image du jardinier en fait qui entretient et qui prend soin en fait.
Mais aujourd'hui, de toute façon, un agriculteur a tout intérêt à garder une terre vivante. Le but c'est de ne pas tuer la terre parce qu'une terre qui est morte ne nous apporte plus rien. Nous, notre but c'est justement de garder du vivant dans notre terre, de la garder active, parce qu'on en a besoin. On travaille avec elle, on n'est pas là pour la tuer, comme nous, on travaille avec elle. Elle produit, on lui apporte ce qu'il faut pour qu'elle nous produise aussi en quantité, mais on a besoin d'elle.
C'est un échange mutuel, en fait.
C'est exactement ça. C'est un lien avec la nature.
Prête-moi un peu de ça, et moi, je prendrai soin de toi pour que tout le monde s'entende bien, en fait.
C'est exactement ça.
On arrive déjà, le temps passe vite en fait à la fin de la deuxième partie. Mais avant, parce qu'on sait qu'il y a ce problème de charge ou quoi, mais il y a eu plusieurs. En fait, la question aussi dans le monde viticole, c'est qu'il y a eu à la fois donc des problématiques climatiques, donc de production, des problématiques de économiques dans le sens les frais qui gonflent parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire par exemple sur l'électricité où vous payez.
Non, on paye l'électricité comme tout le monde et on subit l'augmentation.
Et il y a aussi dans la problématique économique le marché du vin qui aujourd'hui peut-être se cherche un peu une identité, des débouchés.
Oui, aujourd'hui, si on se recentre un peu sur la viticulture aujourd'hui, on a des difficultés à vendre le vin parce qu'on a des consommateurs différents d'il y a quelques années et il faut s'adapter aux consommateurs. Voilà, donc c'est vrai que le problème de la viticulture, c'est que c'est une culture pérenne qui, quand on l'installe, elle est là pour quelques années. Ouais. Donc, changer notre façon de travailler, changer notre façon de produire et changer notre produit, ça peut intéresser les futurs clients, mais il faut du temps. Et aujourd'hui, le client, ce qu'il veut, c'est
tout de suite. Là...
Voilà. Donc, faut s'adapter. Après, c'est possible, mais ça demande des efforts pour nous qui nous demandent encore plus d'efforts financiers et d'efforts physiques pour s'adapter rapidement à la demande du consommateur. Mais c'est faisable. Je reste optimiste.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'interview pour ce moment. Et puis, on va prendre des nouvelles de temps en temps, savoir comment ça se passe et si les escargots font enfin avancer les tortues d'en haut. Voilà. Merci.
Merci à vous.